On assiste chaleureusement la Fondation des Pierre-Pierre qui a organisé cette conférence. On remercie également les autorités du ministère des Affaires étrangères qui nous font l'honneur et le privilège de pouvoir parler de ce lieu aujourd'hui. Il me semble important que nous ayons mis en introduction des témoignages de nos frères venus des Amériques. Parce que la question que nous avons aujourd'hui est une question de réconciliation. Lorsque l'on parle de la fête de l'hier, nous parlons d'un événement, d'un drame qui a duré plusieurs siècles et qui a brisé les familles, qui a séparé les hommes des femmes, qui a séparé les parents de leurs enfants, et qui a interrompu des lignées et des généalogies. Nous parlons d'un événement qui fait que des millions et des millions de nos ancêtres n'ont pas pu avoir de sépulture. Et d'autres n'ont pour seule sépulture que le sang atlantique ou le sang indien. Donc nous parlons de quelque chose qui est évidemment important. Et d'où la nécessité effectivement de parler de crise mémorielle. Nous parlons également d'une grande histoire. Comme cela a été rappelé en introduction, je suis né au Bénin, à côté de vous, et ma mère vient de la Martinique, qui est au niveau de la Caraïbe. Dans le cas du Bénin, dont mon père est originaire et dont j'ai également la nationalité, en 1992, avec l'UNESCO, il avait été lancé le projet de la route des esclaves. C'est un projet qui avait pour but de revaloriser le patrimoine historique, culturel et mémoriel que l'on trouvait autour du Bénin en lien avec les Afro-descendants du Brésil, des États-Unis, de Cuba, de Haïti et de partout. C'est un événement qui a participé à ma propre conscientisation. À l'époque, j'avais une dizaine d'années et j'ai découvert toute la richesse culturelle, artistique de cette histoire. Et c'est cela qui m'a donné le goût de l'histoire. Donc je pense que c'est très important d'être aussi témoin vivant des services qui ont été menés dans un certain nombre de régions, des projets qui ont été menés dans un certain nombre de régions, pour montrer que dès lors qu'il y a une prise en compte de cette histoire, nous pouvons produire des femmes et des hommes d'une qualité scientifique, d'une qualité intellectuelle qui ne fera pas du tout. Ce projet de la route de l'esclave de l'UNESCO avait permis de mener un très important travail sur les sources historiques. Il a permis de mieux comprendre l'histoire de l'Amérique, l'histoire plus générale des empires et royaumes d'Afrique de l'Ouest, et de mieux comprendre les liens que nous avons avec la diaspora. Nous avons notamment des liens fraternels avec Haïti, à tel point que chaque Béninois est un Haïtien et chaque Haïtien est un Béninois. À tel point que la figure centrale de l'indépendance d'Haïti, Toussaint Louverture, son ancêtre vient du Bénin. Le second personnage décisif, Jean-Jacques Dessalines, qui a proclamé l'indépendance d'Haïti le 1er janvier 1804, il est établi qui vient du Congo. Et donc lorsque le camarade de Haïti a fait cette triangulation entre ces différents territoires-là, et je m'insiste exactement dans ce cadre-là, Haïti, le Bénin, le Congo. Et quand on fait cette géographie, on fasse une sorte de triangle que nous devons réapproprier. Ce qui s'est fait le long des côtes ouest africaines, depuis le Bénin, autour du projet de la route d'esclaves, la loi de la mer en Ghana, un peu aussi vers les îles Bermudes, c'est tout ce que aujourd'hui, au niveau du Congo, au niveau de l'Afrique centrale, nous devons continuer. C'est-à-dire, ne pas sous-estimer dès le départ la dimension d'une aide touristique de cette forêt et en même temps la dimension mémorielle de cette forêt. Je sais qu'il existe par exemple des projets de circuits de tourisme mémoriel le long des côtes ouest africaines qui sont portés par des entrepreneurs afro-américains qui estiment que c'est une manière de découvrir l'Afrique, de découvrir de là où ils viennent et en même temps de se ressourcer et d'avoir davantage de connaissances. Donc, ce projet de la route des sables n'a pas été un projet isolé. Il a eu des ramifications et aujourd'hui, il nous semble important de replacer le Congo au centre de ce projet de la place du Congo et centrale. J'y reviendrai un peu plus tard par la suite. Un autre élément, on vient d'indiquer que l'initiative mise en place aujourd'hui l'organisation des cantons ne se produit pas de développer sensiblement dans une architecture. C'est la décennie internationale des personnes d'ascendance africaine qui avait été fêtée par les Nations Unies sur la période de 2015-2014, qui vise à faire en sorte que les personnes d'ascendance africaine puissent voir valoriser leur culture et leur héritage. Et la culture de ces personnes, leur héritage, vient des continent africains. Parce que la majorité de ceux qui ont été déportés des continent africains viennent du Congo, bien cette culture, cet héritage-là passe nécessairement par le Congo. Le troisième élément, c'est l'emploi qui a été validé lors du dernier sommet de l'Union africaine, présidé notamment par le président Félix-Antoine Tshisekedi-Chilombo, qui a été de récupérer un projet qui avait été initié par le Togo, du point de vue annuel, et de le rendre décennal. C'est ce qu'on appelle la décennie des racines africaines ou des diasporas africaines, qui va venir de 2021 à 2031. Donc voilà, par exemple, trois cadres internationaux, scientifiques, culturels, qui existent, et dans lesquels, ne sont que le Congo, doit être absolument central. Deuxième élément, comme je le disais en introduction, et comme c'était rappelé, la mer de Martinique. Les Martiniquais sont ce qu'on appelle les Africains déportés, les Africains esclavagisés, et comme ne savent pas précisément de quel point ils continuent à faire avec elles, ils ont une vision globale de l'Afrique. Il se peut que ma mère vienne du Congo, par exemple. Et lorsque ma mère, qui a vécu il y a longtemps, revient dans ce pays, lorsque nous allons à Mouka, lorsque nous allons à Porto-Congo, nous trouvons des quartiers Congo, des quartiers paisibles, qui montrent qu'il y a un lien entre la Martinique, le Bénin et le Congo. C'est quelque chose qui est très important parce que lorsque je vais en Martinique, pour mes recherches sur d'autres motifs, je constate que les deux noms qui sont présents sont Daoumé et Congo. Et je peux vous assurer que pour beaucoup de personnes de l'autre côté de l'Atlantique, quand on prononce le mot Congo, ils ont des frissons. Ça leur évoque vraiment quelque chose. Et c'est cette dimension de frisson que je pense que nous devons vraiment nous intégrer ici pour comprendre ce que représente le Congo pour cette diaspora. Un autre élément, c'est que cette histoire, cette mémoire, du point de vue de la Martinique, elle a été mise en avant du point de vue culturel et littéraire par des auteurs prédécesseurs. Dans le cas de la littérature, l'une des références de tous ces intellectuels, ces artistes, ces écrivains, c'est le Congo. Le Congo, le Congo, le Congo. À tel point que souvent, l'Afrique se résume au Congo. Et là aussi, c'est quelque chose sur lequel les historiens, les anthropologues, les différents chercheurs en sciences sociales vont par la suite rebondir pour trouver une historiographie qui montre les racines africaines de ce qu'on appelle les adolescents. Et dans bien des cas, cette historiographie amène encore une fois au Congo. Un autre élément aussi, à titre personnel, aussi, un peu d'épaulissement, comme on dit, c'est pas la première fois que je viens en République démocratique du Congo. Et je suis à chaque fois fier et honoré d'être parmi vous. La première fois que je suis venu dans votre beau pays, qui est aussi quelque part le mien, puisque je suis africain et congolais, c'était en 2011. La même année 2011, j'ai fait un voyage en Colombie. Donc la première fois que je suis venu au Congo, en République démocratique, en 2011, j'ai constaté que les Congolais et les Colombiens, les Afro-Colombiens, rient de la même manière, racontent les histoires de la même manière, pleurent de la même manière, chantent de la même manière, opèrent de la même manière. Tout est exactement pareil. Et donc bien des cas, ce sont exactement les mêmes paysages géographiques et naturels. Ce qui montre qu'il y a une continuité, non pas seulement historique, mais aussi culturelle, quelque part psychologique, et je dirais même géographique. Ce sont les mêmes cultures que vous parlez de l'océan Atlantique. Parce parce que ce sont des personnes ici qui ont été ici avec tout leur savoir qui ont amené de l'autre côté. Et donc il y a un certain nombre de travaux qui nous éclairent justement sur ce qu'on appelle les africanismes, c'est-à-dire les surpenses culturelles africaines pour les Amériques. Et donc effectivement, j'ai fait un passé de l'ouvrage que j'ai écrit sur le sort d'un africanisme, dont je donnerai finalement un exemplaire aux autorités d'ici présentes. Un autre élément qui nous ramène dans ce territoire en tant que centre de l'Afrique, c'est le fait que tout a commencé ici. 15e siècle, les premiers à instaurer le mécanisme de la tête, ce sont les Portugais. Ils descendent le long des côtes africaines. Et là, nous, ce qui c'est en premier lieu, c'est le retour, effectivement, du territoire des royaumes Congo, Lango, Angola, et de tous ces royaumes d'Afrique centrale. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le Congo a la particularité d'avoir des archives extrêmement anciennes de cette histoire, notamment des archives diplomatiques, des archives politiques, des archives scientifiques, notamment du point de vue de la linguistique. Nous savons qu'il y a eu tout un travail qui est multiséculaire sur le monde du bassin du Congo. Et donc tous ces éléments-là, dans une période où nous débattons notamment de la restitution des œuvres d'art et de la colonisation également des archives, ce sont des éléments que nous pouvons mettre sur la table pour accompagner ce projet autour du tourisme mémoriel. Je parle en tant qu'historien et avec les chercheurs qui sont ici dans cette salle, je pense que nous le pouvons. C'est-à-dire que ce projet-là, il faut le nourrir, il faut donner une infrastructure pour que ceux qui appellent maintenant, au niveau des décideurs, au niveau des gestionnaires, ils aient toutes les cartes en main. Il faut que les cartes qu'ils aient en main soient les cartes de la meilleure qualité possible. Et donc il y a une mobilisation nécessaire des cerveaux congolais, des cerveaux africains, des cerveaux panafricains, pour faire ce travail-là autour des archives des anciens royaumes, Congo, Congo et autres. Un autre élément historique et géographique, c'est que le Congo est le centre de l'Afrique. L'Afrique est le centre du monde, comme vous le savez. Donc le Congo est quelque part le centre du monde. Donc lorsque nous parlons de la tête négrière, ça a été rappelé dans le discours d'introduction par M. Éric Macron, nous parlons des deux côtés, du côté de l'Atlantique, avec la tête transatlantique, et du côté de l'océan Indien, avec la tête menée notamment par les Arabes, mais qui va beaucoup plus loin parce qu'il va également dans le monde oriental vers l'Inde, vers l'Asie. Et nous parlons également, je pense qu'il faut le dire, de la tête transatlantique. C'est-à-dire que le Congo, étant au centre de l'Afrique, a été impacté vers l'Est et vers le Nord. Et un peu plus tard, au cours du XVIIe et XVIIIe siècle, il a été impacté par le Grand Trek au moment où les colons blancs d'Afrique du Sud voulaient remonter les continents africains pour faire de l'Afrique ce qu'ils voulaient appeler la terre de l'homme blanc. Donc le Congo est maintenant au centre de, je dirais, toutes ces transactions conflictuelles, mémorielles, historiques, géopolitiques, culturelles, scientifiques, archivistiques. Donc le travail est énorme, il est nécessaire. Et ce travail-là a déjà commencé parce que le Congo a aussi produit d'immenses historiens, d'immenses anthropologues, d'immenses linguistes, sur lesquels nous allons nous appuyer, parce que bien évidemment, lorsque l'on lance sur ce projet, il ne faut pas arriver en pensant qu'on est les premiers à l'avoir pensé, il faut s'appuyer sur ceux qui ont déjà fait un travail auparavant, parfois de très grande qualité, et que nous pouvons aujourd'hui réaliser. Dans cette dimension géographique, il faut que quelqu'un ait fait que le Congo, en tout cas le cœur du continent africain, la France centrale, a connu une pollution massive. La très grande majorité des déportés dans le monde vient de cette région Congo-Angola. Comme c'est dit rappelé en introduction, souvent quand on pense à l'histoire de la tête, on pense surtout à Gorée. Si on pense à Gorée lorsqu'on parle de l'histoire de la tête, c'est parce qu'au niveau du Sénégal, il y a eu un travail de crise des problèmes qui a fait de nourrir une étape incontournable pour les adolescents, notamment la foi américaine, qui veut se ressourcer avec la science. Mais du point de vue scientifique, sans que cela ne fasse polémique, il est très clairement établi que la très grande majorité des adolescents viennent plutôt de la partie qui est en dessous de l'équateur. Ça fait beaucoup de polémique. Après, il y a toute la côte des États qui va de Sono, de la Sierra Leone jusqu'au Nigeria, Cameroun, qui a un lieu très important en termes de déportation. Et comme à partir de 1815, la traite, c'est-à-dire la traite, c'est le principe de déporter les personnes d'un lieu à un autre, a été interdite dans le Nigeria Nord, et bien tout au long du XIXe siècle, la traite a continué pour le Nigeria directement, notamment entre le Brésil, qui était un développement de Portugal, et les régions du Congo, de l'Angola, et également les régions du Mozambique. C'est-à-dire qu'il y a une traite qui est tournée vers l'océan Indien, mais on sait qu'une partie arrivait dans les Amériques. C'est-à-dire qu'il peut y avoir des Afro-descendants arrivés dans les Amériques, en passant par les Zanzibar, et qui viennent parfois, effectivement, du cœur de l'Afrique centrale. Donc ce sont ces éléments-là qui ont amené depuis une dizaine d'années beaucoup d'Afro-descendants, beaucoup d'Afro-américains, à faire des tests ADN et déterminer un peu plus précisément leurs origines. Et donc ce travail-là, il est important, je dirais, aujourd'hui, à mettre en avant. C'est cette position d'Asie qui fait que le groupe est mondialisé. Il y a des groupes partout dans le monde. Et cela date déjà de cette époque du 15e, 16e siècle. La première mondialisation qui est liée à l'histoire de l'Afrique ouvrière vient du monde. C'est très important parce que ça donne aussi une perspective historique beaucoup plus large que la perspective du 19e siècle avec la conférence de Berlin et le partage de l'Afrique. Un autre élément, c'est que tout en étant un carrefour géographique, historique et culturel, tout en étant le cœur, comment dire, sur lequel s'est appuyé ce crime contre l'humanité, aujourd'hui 21 mai 2021, nous connaissons notamment les parents de la population officielle de la fameuse loi Toubira, qui ont dit notamment la France reconnaît l'esclavage de la traite comme un crime contre l'humanité. Donc ce crime contre l'humanité, dont le Congo a été l'un des lieux dans lequel s'est produit, n'a pas empêché le Congo, les sociétés congolaises et eux, de l'Afrique centrale, de garder une certaine cohérence, une certaine cohésion. Là aussi, c'est quelque chose qui est très important, la dimension de résilience. C'est-à-dire que nous subissons, nous plions, nous avons fait des choses extrêmement violentes, mais nous résistons, nous sommes de nous. Et nous sommes même l'un des peuples les plus importants, y compris numériquement parlant, au continent africain. Et si nous avons la diaspora, c'est peut-être le plus important du monde. C'est aussi très important parce que cela veut dire que les cultures et les traditions n'ont pas disparu. Et je tiens pour eux le fait que les autorités des sociétés traditionnelles doivent également leur place telle et entière dans ce projet. Parce qu'elles sont dépositaires dans certaines de cultures, dans certaines de traditions, que nous retrouvons de l'autre côté des Amériques. Et que les frères et sœurs de l'autre côté des Amériques cherchent à retrouver. Donc on ne peut évidemment faire comme si le Congo était une table rase du fait de la traite des autres. Il existe des traditions, des cultures qui ont continué à exister et sur lesquelles nous nous appuyons. Un autre élément très important, et effectivement, maintenant aussi, j'ai eu vraiment la très grande joie d'apprendre. Quand le travail de modèle était fait au cours de la discussion de Paul Mondafarana, c'est la question qui est fondamentale. Puisque nous parlons de millions et de millions de personnes qui ont été violemment capturées, déportées, mutilées, assassinées, sans Et cette question de l'entreprise fait aussi partie du travail des modèles. Parmi ce qu'on appelle les sites des modèles, bien ce qui renvoie à la fête, ce qui renvoie à l'esclavage, ce qui renvoie aux abolitions, ce qui renvoie aux résistances, bien ce qu'on appelle les deux mémoires, les sites de mémoire, les itinéraires et les circuits, il y a ce qu'on appelle les lieux de conscience. Les lieux de conscience. Et une telle frontière, parce qu'il y a beaucoup d'hommes et de femmes qui se sont battus pour leur liberté en Afrique et dans les Amériques, qui ont un lien avec le Congo et avec la France. Une telle de ce frontière-là, ouais, justement, voulait faire sortir le monde qu'on appelle les secondaires pour leur redonner tout ce qu'ils ont donné pour que nous soyons présents aujourd'hui ici. Donc le thème pourrait effectivement inclure des personnes comme Jean-Jacques Dessalines, qui a proclamé l'indépendance d'Haïti, comme Gaspard Monga, et comme bien d'autres afro-descendants, dont on sait qu'ils ont des origines en lien avec le Congo. Ensuite, il y a effectivement les peuples. Là aussi, tout à l'heure, je parlais des frissons que beaucoup de personnes ont dans la famille et dans la diaspora lorsqu'on parle de Congo. Il y a également des lieux qui portent ce nom. Les Congo souhaitent, ce sont des places que vous pouvez voir dans un certain nombre de villes afro-américaines et africaines, c'est-à-dire la place Congo. Ce sont souvent des lieux qui auparavant étaient parfois des anciens marchés des salles. On peut également citer le pénitencier d'Angola, qui n'est pas en Angola, mais qui est en Louisiane. C'est un pénitencier dans les plus grands des États-Unis d'Amérique, qui s'est ouvert sur une plantation dont on sait qu'elle a été la dernière à accueillir en captivité les Africains déportés d'Angola et du Congo, ou de nos pénitenciers d'Angola en Louisiane. Et il y a des archives dans ces lieux-là qui renvoient à ces personnes qui ont été les dernières à quitter l'Angola et le Congo dans ce contexte-là, que nous devons exploiter, que nous devons faire travailler. Plus généralement, dans ce projet, c'est aussi la question de qu'est-ce qui se dit pour la diaspora et dans le monde sur la place de l'Afrique centrale dans la planète. Sur ce point, je m'excuse parce que j'étais engagé à produire une présentation. Je devais aller en Martinique, mais ça n'a pas été possible à cause du Covid l'épisode. Je suis engagé à faire une présentation de compatriotes martiniquais et martiniquais dans une petite vidéo qui allait plus se dire répondre à cette question de l'histoire du lien avec le Congo. Et je pense que c'est aussi quelque chose qui, du point de vue promotionnel, doit être pensé. Mon lien, mon histoire avec le Congo, déclamé par un certain nombre de personnes de cette diaspora africaine, qui voit dans le Congo et dans la réflexion sur la tête, non pas seulement des questions du passé, mais des questions du futur et d'avenir. Et dans l'infrastructure de ce projet, en tant qu'historien, en tant que chercheur, nous aurons à travailler effectivement sur le passé, sur les archives, sur les travaux que j'ai écrits, mais également pour projeter dans le futur, puisque lorsque nous parlons de circuits, de musées, de lieux et de sites, nous devons également nous inscrire dans le cadre de l'innovation. Et le tourisme, y compris dans sa dimension économique, est un lieu extrêmement important pour penser l'innovation, l'innovation technologique. Le Congo regorge de génies et de scientifiques qui peuvent produire des applications en lien avec cette histoire. Sur les sites sur lesquels nous pensons que nous devons travailler, notamment au niveau du Congo central, il faudra les accompagner dans certains nombre d'applications, dans certains nombre de logiciels, dans certains nombre d'outils, qui permettent aussi d'avoir une approche digitale et virtuelle de ce projet. Donc ça, c'est des économies, c'est des investissements, c'est de la matière grise sur laquelle la diaspora est absolument prête à contribuer. C'est très important. Nous ne parlons pas du passé. Parce que c'est souvent le reproche qui nous est fait, nous, les historiens, nous disons que faire tout ça, c'est le passé. Lorsque nous travaillons cette matière, nous nous projetons dans le futur. Avec les plus importantes technologies aussi. Et d'ailleurs, le métier d'historien de l'Europe est en train de changer parce que vous pouvez vous adapter aux nouvelles technologies. On date des documents comme Moïse Chambaud, qui est l'un des plus anciens outils qui montre la naissance de la mathématique au bassin de l'eau. Nous devons nous appuyer sur les ressources scientifiques les plus adaptées et les plus efficaces. Donc ces ressources qui sont technologiques sont aussi artisanales. Et donc je pense que dans la dimension aussi, il y a une grande dimension artisanale qui rejoint justement cette dimension économique sur laquelle nous travaillons avec les historiens de l'art. Reconstituer l'art de cette époque, voir un peu quels étaient les objets que les personnes qui ont survécu à la tête avaient. Parce que qui dit patrimoine, dit collecte d'objets, dit classification de ces objets, dit explication au cours de ces objets. Donc, évidemment, on ne voit pas global où, en Occident, on vient se débat sur les musées, sur la restitution, sur qu'est-ce qu'un musée, quel est le patrimoine africain, etc. Les ressources au groupe et en Afrique centrale doivent également servir à écrire l'histoire de l'humanité. Il y a un certain nombre d'éléments qui sont déjà à disposition et il y a des équipes qui travaillent déjà sur ce projet-là et sur lesquelles nous pouvons aussi servir. On ne peut pas écrire cette histoire-là sans l'intégrer globalement dans l'histoire de l'humanité. On ne peut pas écrire l'histoire de la tête ou se pencher sur le patrimoine de la tête qui est un crime contre l'humanité. Sans en même temps comprendre la place du tango dans cette histoire de l'humanité. Un autre élément, ce sont les recherches archéologiques. Tout à l'heure, il a été fait mention de Samuel Jackson, qui est probablement, avec deux ou trois autres afro-américains, le moins le plus célèbre des États-Unis d'Amérique. Samuel Jackson a participé à une série de 5 ou 6 épisodes qui a été tournée, je crois, l'année dernière, dans lequel on voit des équipes de plongée sous-marine faire de la plongée dans le large côte littoral. Je pense que c'est plutôt la synchronie ici, et notamment faire la recherche archéologique sous-marine. Parce que le large côte de l'Afrique centrale, il y a des véritables trésors qui sont sous l'eau. Et cela permet aussi, je dirais, de reconsidérer différemment la richesse de notre tombeau et la richesse de notre espace sous-marin. D'avoir une autre vision beaucoup plus uniquement la vision de la pyramide, etc. Et cette recherche archéologique sous-marine, c'est également un moteur de développement. L'équipe qui a accompagné Samuel Jackson a mobilisé énormément de fonds pour faire ce travail-là. Et c'est un travail qui va de plus en plus se développer et sur lequel il est important que les pays qui sont à proximité directe de cette histoire soient présents. Au niveau de l'intérieur, il y a un site de mémorial sur la route qui est également mis en place. Donc on voit comme pas négliger à la fois l'intérieur du pays, qui est très important, mais également l'espace sous-marin. Qui dépend de la juridiction, de la souveraineté des pays d'Afrique, de l'Afrique centrale et plus généralement du continent africain. Ces recherches archéologiques qui m'arrivent doivent également contribuer à cette nouvelle écriture de l'histoire de la tête et de ce patrimoine. Enfin, il y a aussi, je pense, une dimension civilisationnelle qui est très importante. Elle est d'autant plus importante que lorsque l'on fait référence à cette histoire de l'humanité, il se crée contre l'humanité qui est devenue interrompue, l'histoire que connaissait les populations du Congo, nous devons également, je dirais, l'utiliser pour redonner aujourd'hui. Et c'est quelque chose qui est très intéressant de voir aussi comment d'autres pays africains ont fait ce travail-là. Ceux qui sont en avance, de très loin sur le continent africain, ce sont les Égyptiens parce qu'ils ont à disposition toute une civilisation, tout un patrimoine, l'outil lunaire qui fascine le monde entier et qui fait que bien qu'avec l'économie de tourisme, je pense que l'Égypte en plus une grande partie de son budget. C'est que le président Félix Antoine Tshisekedi qui en considère dans l'Égypte. Il avait constaté décideurs, chercheurs, citoyens, de vous tenir la main, comme je dirais, de mettre en avant aujourd'hui, pour le bien de tous les Congolais et de tous les Congolais, pour le bien de tous les Africains et les Africains et du continent et de la diaspora. La diaspora, en tout cas cette reconnaissance que nous avons identifiée, est prête à apporter sa contribution. Elle n'attend que le couvert, elle n'attend que les instructions. Mais sur ces mots, je